la bulle entre les repères, hein, vous savez, le niveau d'eau, hein, la bulle entre les repères. Juste au milieu, là, hein, non pas la bulle d'un côté ou de l'autre côté, hein, d'un repère à droite ou d'un repère à gauche, la bulle au milieu, la bulle entre les repères, c'est ça. Il faut avoir ces repères et pouvoir se situer face aux réalités concrètes. Et il appela lumière jour, et il appela à la ténèbre. Voilà. Conventionnel. Absolument conventionnel d'appeler jour et nuit, on pourrait utiliser d'autres termes. Mais voilà, on sait maintenant qu'il y a une suite. Il y a le jour et puis la nuit, ou il y a la nuit et puis le jour. Et fut soir, et fut matin, jour 1. Et cela apporte quelque chose. La dernière partie du verset, et fut soir, et fut matin, jour 1, on est embarqué dans une histoire. Et fut soir, et fut matin, jour 1. Pourquoi dit 1 et pas premier? Mais on ne sait pas ce qu'il va avoir dans la suite. On sait ce que c'est qu'un jour. Et c'est à partir du, hein, du mètre, de l'étalon, qu'on va pouvoir mesurer les autres jours. Mais il faut d'abord un étalon posé comme étalon. Voilà, jour 1. Dans l'Évangile, lorsqu'on parle de la création manifestée par la résurrection, le jour 1 du sabbat, nous traduisons souvent le premier jour de la semaine, jour 1, référence, voyez, celui qui construit son texte comme ça, il a la Genèse dans les oreilles. Et c'est qu'on n'emploie pas premier. Nous employons premier parce que nous savons la suite. Et la suite va se découvrir. Et il dit Dieu, soit un firmament, oui. On a, comme je vous disais tout à l'heure, on a séparé le temps. Et la séparation fait que on peut calculer maintenant les jours et les nuits. Et maintenant, l'espace. Il y a un espace au-dessus et un espace en dessous. Il ne faut pas tout mélanger. Le soleil, hein, fait qu'on peut distinguer le ciel de la mer. Mais il faut du soleil, sinon il y a de la brume qui cache tout. Il y a un terme sur lequel je ne suis pas encore venu, c'est souffle de Dieu. On traduit souvent esprit de Dieu, Ruach Elohim. Ruach, c'est l'esprit, le souffle. Souffle de Dieu frémissant sur la face des eaux. Le terme frémissant, merachefet, est dit généralement d'un oiseau qui vole, hein, qui arrive sur le nid de ses petits, hein, et qui volette là, sur le, qui frémit avec ses ailes. C'est l'image qui est prise là. Évidemment, les pères de l'Église aussi s'en sont donnés à cœur joie, vous comprenez. Dieu créateur. Il crée par la parole et le souffle qui est présent. Ils vous diront, ben voyez, la Trinité est présente dès le début de la création. Et chacun a son rôle bien déterminé. L'initiative vient du Père, appropriation des différentes œuvres. Le Père est celui qui a l'initiative. Le Fils, la parole, est celui en qui tout est créé. Et l'Esprit Saint est celui qui unit le créé à Dieu lui-même, l'incréé. Et puis il y a le firmament, hein, nous en avons parlé, et ce fut ainsi. Et puis de nouveau Dieu crie au firmament cieux, il le désigne, en se réservant de dire, hein, plus tard, juste après, hein, le jour suivant, ce qu'il y a au-dessus, la terre et le mouillé, la terre et la mer. Et de fait, au troisième jour, hein, il dit à la matière sèche terre, et à l'assemblement des eaux, il crie mer. C'est curieux, hein, le terme qui est utilisé pour rassemblement des eaux, on ne rassemble pas les eaux. Hein. Le terme qui est utilisé pour ça, c'est le même mot mikvé. Et le mot mikvé est dans la tradition juive, déjà à l'époque, dans la tradition juive, le terme utilisé pour le bain rituel. Le bain rituel qui purifie. Il utilise comme ça toutes sortes de mots liturgiques. Et donc ça pose question pour quelqu'un qui lit ce texte. Et on voit bien qu'il décrit la création, mais il décrit en même temps la vie de tout juif. Et à l'assemblement des eaux, il crie amer, terre, mer, et il vit Dieu que c'est bon. Et puis alors, voilà qui fait pousser. Et à partir du moment où il fait pousser, notez aussi l'expression, et il dit Dieu, que la terre fasse pousser une pousse. Et à partir de ce moment-ci, il agit avec des intermédiaires. La terre doit faire pousser la pousse. On dirait que ce n'est plus Dieu qui fait tout, il laisse faire. La pousse porte elle-même sa semence, ensemençant semence. Hein, une herbe ensemençant semence. Elle a la capacité de se reproduire. Et on dirait que Dieu lâche progressivement du lest. Oui, je sais plus. Je vais terminer ici. Et elle fit sortir, vous voyez, cette fois-ci, c'est la terre qui fait sortir, la terre qui obéit. Jusqu'ici, on dit, fut ainsi, une sorte de simple passivité, et elle fit sortir la terre. On dirait qu'elle devient un sujet, cette terre. Elle fit sortir la terre, une pousse, herbe, ensemençant semence, selon son espèce, et voilà que ça commence, selon son espèce. Et on dirait que la séparation a gagné la réalité créée. Et maintenant, hein, on dirait que la séparation... Hein, se fait d'elle-même. Chacun porte selon son espèce. Et donc c'est intéressant pour voir la multiplicité, la différence. Nous vivons dans la différence. Il n'y a pas deux êtres qui se ressemblent. Il n'y a pas deux végétaux qui se ressemblent absolument. Il n'y a pas deux feuilles parfaitement pareilles. Et donc c'est dans cette différence reconnue comme différence qu'il va y avoir moyen, hein, de trouver l'unité. Ben, nous verrons, ça va venir après. Mais déjà, hein, le principe est donné. C'est d'abord Dieu qui sépare, et puis voilà que la séparation se met en branle. Vous avez la même chose dans la formation, hein, de l'homme. Vous avez la cellule qui se sépare et qui, en se séparant, deviennent de plus en plus multiples et vont constituer l'unité qu'est un homme ou un être. Fasse pousser la terre une pousse, et elle fit sortir la terre une pousse, herbe semence en semence selon son espèce, et arbre faisant fruit. Alors ici, vous avez arbre et fruit. Ils vont revenir au chapitre 2. Hein? L'arbre et le fruit. Où nous allons voir une pomme, bien entendu, parce que nous lisons ça à la superficie. Et elle fit sortir la terre une pousse, et arbre faisant fruit, qui a en soi sa semence. Le fruit porte en lui-même sa semence, selon son espèce. Et il vit Dieu que c'est bon. Et il fut soir, il fut matin, jour troisième. Voilà, nous reverrons la suite des événements tout à l'heure. Donc, essayez de tirer au moins quelques conclusions de ce premier texte. Nous étions arrivés au jour troisième. J'essaie seulement de faire ressortir un certain nombre de mots qui auraient pu nous échapper, ou dans la portée en tout cas, auraient pu nous échapper, pour nous montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'une description, mais qu'il s'agit d'une hymne qui nous mettent en état de contemplation. Donc nous avons posé les choses en les séparant, et je vous ai dit, et je crois que c'est très important, de voir que la séparation est toujours en vue d'une union, d'une communion. La séparation n'est pas un état définitif, elle est en vue de quelque chose. On sépare, Jacques Maritain disait, distinguer pour unir. Hein, distinguer pour unir. Hein, c'est pas seulement pour mettre d'un côté et de l'autre, mais pour montrer que chacun n'a pas le même rôle et que chacun doit découvrir l'autre dans sa spécificité. Comme me disait un jour un prêtre de un prêtre melkite, oriental, de rite oriental, et il disait, voilà, oui, vous autres vous mêlez tout, vous mettez l'autel au beau milieu de l'assemblée. Alors, il faut que vous le surréveilliez, que vous montriez qu'il y a une différence. Nous autres, nous mettons un mur. Ce mur, vous dites que c'est une séparation, nous disons que c'est justement le lieu de l'union et de la communion. Le mur sépare la liturgie du mystère, la liturgie de Dieu, qui est le propre de Dieu, de la liturgie terrestre, qui n'est qu'une image. Alors, il faut bien montrer que notre liturgie, qui est soutenue par l'iconostase, par toutes les icônes, qui nous met face à nos intercesseurs, au rez-de-chaussée, puis à la vie de Jésus, hein, au premier étage, au-dessus, vous avez les images de la vie de Jésus, et puis face alors au monde du ciel, hein, symbolisé par la croix de Jésus, et puis alors le plafond, avec le Pantocrator, avec la Trinité, etc. Nous sommes devant le mystère de Dieu, mais nous ne sommes pas à l'intérieur du mystère de Dieu. Alors si vous supprimez le mystère, alors vous supprimez le mur aussi. Mais alors vous n'avez plus de lieu de communion. Hein? Vous avez fusionné tout. Alors faut pas vous étonner que vous n'avez plus de repères. Voilà, je vous dis, hein, pour vous montrer qu'il y a une différence de réflexion entre ce qu'ils disent et ce que... la manière dont nous vivons les choses. Soit les luminaires au firmament des cieux pour opérer séparation. Ils vont manifester par une succession du temps qu'il y a une distinction entre le jour et la nuit. Aujourd'hui, nous ne faisons plus, avec nos éclairages modernes, nous ne faisons plus de distinction entre le jour et la nuit. La nuit devient le jour et le jour la nuit. Alors, si je lis ceci de manière fondamentaliste, je vais dire donc que je ne peux pas travailler la nuit. On ne dit pas ça, notre démien, hein? C'est pas dans le texte. On nous dit seulement que ce sont deux choses différentes, deux réalités différentes. Et que ces deux réalités manifestent une succession. Mais c'est curieux, les ténèbres étaient déjà, elles couvraient déjà l'abîme dès le départ, dès avant la première parole. Intéressant de voir ça. Donc ça veut dire que les ténèbres, où cette chose chaotique n'a pas disparu, elle est simplement ordonnée. Les ténèbres, le désordre, en quelque sorte, existent encore. Mais il n'est pas total. Au départ, il était total. Maintenant, non, il y a une alternance. Ça veut dire que le mal, la réalité que nous appelons le mal, en tout cas, n'est pas total. Il y a une expérience de chaos, une expérience de ténèbres, une expérience de non-référence qui peut se faire, mais elle n'est pas totale et définitive. Il y a une ouverture. Et vous allez voir que tout va dans ce sens, finalement. Et qu'ils deviennent signes, et là, on entend bien les prêtres qui sont derrière ce texte, et qu'ils deviennent signes pour des convocations, les fêtes de l'année, les convocations du peuple, pour des jours, qui peuvent être les saisons, ou certains pensent aussi, la distinction des jours, le jour du sabbat, des autres jours de la semaine, c'est possible aussi, et pour des années. Chaque année ramène son plan liturgique, nous dirons son cycle liturgique, nous parlons comme cela encore, et sa lecture de l'ensemble de l'Écriture. Donc il y a une succession de jours et de nuits, mais qui se distingue sur une trame qui utilise le schéma de l'année, le schéma de révolution de la Terre autour du Soleil, des schémas, un schéma des années, et qui sont symbolisés et consacrés en quelque sorte par ces convocations, par ces fêtes.
C'est repris dans un psaume qu'on trouve au commun des évangélistes.
Tout à fait.
Avec le soleil qui sort de sa chambre.
Oui, tout à fait. C'est un psaume qui est 104 et qui vient qui est inspiré d'une hymne égyptienne. Et nous y viendrons là. Donc deux grands luminaires, alors, le luminaire grand pour gouverner le jour et le luminaire petit pour gouverner la nuit et les étoiles. Ici, il y a une notation intéressante. On a parlé au départ de l'abîme, the home, et le mot est forgé sur, lorsque les dieux, dans la cosmogonie babylonienne, lorsque les dieux ne voulaient plus faire le travail, les corvées d'eau, etc., eux-mêmes, pour le cycle des dieux, les dieux subalternes, ils ont créé l'humanité, mais ils ont créé l'humanité, et ici les cosmogonies sont un peu différentes les unes des autres, en mélangeant à de la glaise du sang d'un dieu qui a été immolé, par exemple. Sang, glaise, intéressant. En effet, dans le mot Adam, Adam, homme, l'humanité, il y a le mot Dam, qui en hébreu signifie le sang. Sang et glaise, Adama, la glaise, la terre, et Dam sont aussi assimilés dans la mentalité juive. Ça sonne de la même manière. Et donc, Tiamat, la déesse Tiamat, a été coupée en deux, et de son cadavre a surgi l'humanité. Or, ici, dans le texte, vous n'avez plus de déesse, vous n'avez plus de dieu, vous n'avez plus le soleil et la lune qui sont considérés aussi, et dans la mentalité égyptienne et dans la mentalité babylonienne, comme des dieux ou des déesses. D'ailleurs, on reprend ça dans une certaine iconographie chrétienne. Vous voyez souvent le soleil et la lune qui ont des visages humains, des yeux, une bouche, etc. On voit ça. Mais tandis que dans la Bible, non. Le soleil et la lune ne sont pas des dieux ou déesses, de simples luminaires, des réverbères, des lampes. Et donc là, il y a quand même une volonté de simplification, d'opposition vraisemblablement, à la mentalité polythéiste mésopotamienne, une prise de recul par rapport à cela. Et il l'étonna au firmament des cieux pour illuminer sur la terre. Donc c'est ici que nous rencontrons pour la première fois le mot donner. Cet ameublement de la création est un don de Dieu. Vous aurez vu qu'on ne prononce nulle part le mot amour, pas exprimé, on ne dit pas quel est le but de la création, mais on le considère comme un don. C'est déjà beaucoup. Il les donna au firmament des cieux pour illuminer sur la terre. Donc l'illumination, l'éclairage est un don pour gouverner le jour et la nuit. Que signifie ce terme de gouverner? Gouverner, c'est en quelque sorte présider. Le terme gouverner, c'est le même mot que le gouvernement, pour gouvernement du jour, gouvernement de la nuit. C'est le même mot que utilisé aujourd'hui en hébreu moderne pour dire le gouvernement, même shalat. C'est le même mot que vous trouvez dans le mot proverbe, coutume. Une comparaison aussi, le machal, un exemple. Donc gouverner le jour et la nuit, c'est entrer dans cet ordre, dans cette succession, que le jour et la nuit, qui sont dans Dieu, qui viennent de Dieu, font intervenir dans le monde. Et pour opérer séparation entre la lumière et les ténèbres, pour que tout ne soit pas mélangé. Dans la tradition juive, comme aussi chez les pères de l'Église, cette illumination a été prise au sens figuré, comme éclairage de l'intelligence. Il y a une opacité de l'intelligence, c'est la nuit, les ténèbres, et il y a un éclairage qui vient de la présence de Dieu qui éclaire, c'est-à-dire la révélation. Les pères de l'Église voient cela aussi dans ce texte. Et puis vous avez comme un grouillement de vie, un pullulement, un foisonnement. Le terme est difficile à traduire, grouillement est bien dit, un grouillement d'êtres vivants. toujours dans le... Mais ici, dans le cinquième jour, pardon, dans le, l'ameublement de la création, grouille les eaux d'un grouillement d'êtres vivants, et voilà que le mot « être vivant », le mot « vivant » intervient. La création apparaît de plus en plus comme un don de vie. On va vers une vie de plus en plus grandissante. On a vu les... la végétation, et puis maintenant, on voit les animaux. Et ce mot de vie va intervenir au moins une dizaine de fois dans tout ce texte de la création. Et cette vie a des manières différentes de se manifester. Elle est dans le ciel, elle est sur la terre, elle est dans les eaux. À tous les étages de la réalité de la création, vous retrouvez cette vie. Et il faut voir combien ce mot intervient constamment. Le volatile vole sur la terre, sur la face du firmament des cieux, et il créa Dieu les grands monstres et tout être vivant, et je vous ai fait remarquer que le terme créé revient ici, et tout être vivant rampant dont grouillent les eaux selon leur espèce, et tout volatile ailé selon leur espèce. On voit bien que s'il s'agit d'espèces dans le cas des végétaux, dans le cas des animaux, il s'agit d'un principe de vie, c'est-à-dire d'une certaine autonomie. On ne peut pas parler d'autonomie personnelle, mais un vivant est une entité spécifique et qui peut grouiller, c'est-à-dire qui peut marcher, déambuler, se mouvoir en tout cas. Et donc, rampant sur la terre, grouillant dans les eaux, ou bien volant à la face du firmament. Et intervient ici la bénédiction. La bénédiction, c'est cette capacité de vivre et de donner la vie. Et une vie avec une autonomie. Généralement, le végétal ne bouge pas beaucoup de sa place. Même s'il a tendance à envahir certains espaces, il ne bouge pas tellement. Tandis que l'animal, lui, bouge. Fructifié et multiplié. Et donc on voit que ce foisonnement signifie quelque chose, une certaine richesse dans la création. Et emplissez les eaux des mers. Pas seulement tout ce qui va son chemin dans les eaux, comme le disait le psaume, mais emplissez les eaux des mers. Et que le volatile se multiplie dans la terre. Donc grouillement, fructifié, multiplié. Cette fois-ci on dit fructifié, on disait portant du fruit qui ensemence sa semence. Ici, il y a comme donner à l'animal une certaine volonté de fructifier. Il a son autonomie propre. Donc vous voyez, il y a une certaine démarche qui avance, et c'est pourquoi certains ont pu comparer cette démarche qui est exprimée par les sept jours au chemin de l'évolution. Bien sûr que les auteurs du texte ne pensaient pas du tout à une quelconque évolution. Mais il y a un chemin qui peut être compris de la sorte. Et il dit Dieu. Et donc nous arrivons au sixième jour. Et vous voyez que ce sixième jour comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versets. Donc il est beaucoup plus ample que les textes précédents. Et ce huitième jour est ponctué de 4 fois, il dit Dieu. Avec, lorsqu'il bénit les hommes, il leur dit, je voulais souligner tout à l'heure, il leur dit, il dit à quelqu'un cette fois-ci. Jusque-là, il ne pouvait que dire, et on obéissait, la nature obéissait. À présent, il peut parler à. Il dit Dieu de nouveau, fasse sortir la terre. Que grouillent les eaux, on avait vu qu'il y avait une séparation de la terre de la mer, eh bien, on demande à la mer de grouiller, aux eaux de grouiller, et leur donne de faire naître les animaux. On demande à la terre aussi de fabriquer en quelque sorte, de faire sortir, comme s'ils contenaient en eux-mêmes cette vie déjà présente, fasse sortir la terre, être vivant. Nefesh Chaya. Je traduis par être ce que d'autres traduisent par haleine de vie, principe de vie, personne vivante. On peut traduire ce mot Nefesh de plusieurs manières. Être vivant, selon son espèce. Quand je dis être, c'est un être animé qui a précisément son autonomie propre. Bétail, reptile et vivant de terre selon son espèce. Vous remarquerez qu'il y a des reptiles qui viennent des eaux et il y a des reptiles sur la terre. Et il fit Dieu le vivant de la terre. La vie qui sort de la terre. Vous voyez qu'à partir de ce moment-là où on parle des animaux, c'est la vie qui est mise en évidence. Et bénir, pour Dieu, c'est toujours donner la vie. La transmettre. Et aussi donner de donner la vie. Devenir vie qui se donne, qui se partage. Et il fit Dieu le vivant, la terre selon son espèce, le bétail selon son espèce, et tout reptile de l'humus selon son espèce. Et Dieu vit que cela est. Et il dit Dieu, faisons un humain. On a évidemment cessé de s'interroger, on n'a pas cessé, pardon, de s'interroger sur ce terme de faisons. Pourquoi une première personne du pluriel? À qui s'adresse-t-il? Dans la, chez les commentateurs juifs, il y a deux chemins pour expliquer ce faisons. Là, on ne parle pas de Trinité, évidemment. Le premier chemin, c'est celui de Dieu qui a constitué un monde qui prend petit à petit son autonomie propre. Eh bien, Dieu va demander au monde de participer, de collaborer à la fabrication de ce microcosme qu'est l'homme. Il y a des sels minéraux dans l'homme. Il y a du végétal. Il y a de l'animal, eh bien, il va demander à toute la création, à tout un chacun, à toutes ces créatures qui ont été composées jusque-là, il va leur demander de collaborer, de donner quelque chose de soi. Intéressant, ça. Ça vous donne une perspective. Donner quelque chose de soi. Rien ne nous est donné pour nous, de façon propre. C'est toujours pour être donné, selon son espèce. On n'est pas, les choses ne nous sont pas données pour nous. Elles nous sont données pour que nous les donnions. Bon, intéressant. Donc voilà une idée que vous trouvez chez les commentateurs juifs. Donc, Dieu va fabriquer avec le cosmos entier, il va fabriquer un microcosme. L'homme est porteur de toute la création. Ce qui va lui donner une sorte de titre de gloire, une sorte de préséance dans la création elle-même. Il y a encore une autre perception chez les commentateurs juifs. Et vous dites, ben c'est Dieu qui délibère avec son côté masculin et son côté féminin. Dieu est père et mère. Et donc il dit, ben ensemble, le masculin et le féminin en Dieu va fabriquer un enfant, comme à l'image de ce que l'homme fait. On va fabriquer un enfant, l'humain. Fabriquons. Faisons. Les pères de l'Église y voient une délibération intra-trinitaire. À l'intérieur de la Trinité, les trois personnes divines délibèrent. Et on dit, eh bien, chacune des trois personnes va y mettre du sien. Et donc l'homme va être image de cette trinité, c'est-à-dire de cette communion de personnes qu'est la divinité. Il va être porteur. Saint-Augustin, par exemple, a pas mal de pages dans son traité de la Trinité, fort intéressante, pour montrer la manière dont l'homme est constitué trinitairement, que ce soit mémoire, intelligence, volonté, que ce soit l'homme, la femme et l'enfant, ou l'homme et la femme, l'enfant et la famille, etc. Il trouve un certain nombre d'expressions analogiques pour nous dire comment l'homme est vraiment porteur de cette réalité trinitaire. Mais c'est comme ça qu'il voit les choses. Il voit dans le début, dans le premier verset, et dans ce verset-ci, hein, il voit une sorte d'approche, appréhension, comme ils disent, apprehensio, hein, une sorte d'approche d'une perception trinitaire. Faisons-la. À notre image, comme notre ressemblance.
Ça ne pourrait pas être simplement un pluriel de majesté.
Ah oui, simplement.
Mais avec ce qui précède.
Oui, oui, peut-être. Mais quand même étrange de dire, hein, parce que, étant donné que l'hébreu a deux manières de dire « je », il peut dire « ani », simplement, c'est « ani », mais quand Dieu dit « je », généralement c'est « anochi », c'est un terme un peu plus fort. Hein, on aurait pu dire cela. On ne dit pas « je ». Et puis il dit « notre image » et « notre ressemblance ». C'est qui apparaît un peu comme une communion, comme une communication en Dieu même. Enfin, voilà. On ne peut pas déterminer plus, hein. On peut simplement proposer différentes pistes de réflexion. À notre image comme notre ressemblance. Pourquoi deux mots? C'est vrai que le terme image est un peu brusque, un peu abrupt. Parler d'image de Dieu, étant donné qu'on ne peut pas faire d'image en Israël, parce que faire une image de Dieu, ça, c'est une créature faite de main d'homme, alors que c'est Dieu qui fabrique. C'est un peu irrespectueux de parler d'image. Et on dit souvent que le terme d'image est atténué par « comme notre ressemblance », qui dirait justement l'analogie. C'est quelque chose comme cela. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas une image, autrement dit, ce n'est pas un duplicata de Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu. Et là aussi, il y a probablement une volonté de prendre distance par rapport à ce qu'on appelle l'idolâtrie des nations. Et alors, ce qu'on leur demande, c'est de maîtriser le poisson de la mer et le volatile des cieux, et le bétail et toute la terre et tout reptile rampant sur la terre. Généralement, la tradition juive tire ici toute une leçon d'écologie de ce texte. Dans ce texte, de, vous savez, de, qui a le dimanche matin à France 2, là, il y a Yossi Eisenberg, qui depuis des années fait toute une présentation de la... Lui ose dire le mot de théologie juive, bon, fait toute une présentation. Et ici c'est avec Armand Bécassis, donc il a publié ça, c'est dans le premier de la série, à Bible ouverte, qui parle précisément de la création. Et il nous dit ceci, il le dit par après, hein. Vous posez là, dit-il, le problème, oui, voici le texte de Armand Bécassis, mais il en parle à propos du verset qui vient par après. En principe, la bénédiction est éternelle. Quand Dieu bénit, c'est pour toujours, il ne revient pas sur ses décisions. Dans la réalité, le monde peut aboutir à la catastrophe et à l'épuisement à cause de l'homme, qui dégrade l'énergie, la dépense inutilement, et surtout utilise en détruisant, nous disons aujourd'hui, en polluant le monde. Or, il tire généralement de ce verset un commandement écologique. On peut utiliser la terre telle qu'elle nous est donnée, mais selon le principe de la terre, c'est-à-dire dans l'optique du Créateur. Pas de n'importe quelle manière. Qu'est-ce que c'est que maîtriser? Maîtriser, c'est apparaître comme le maître. Et quelle est la qualité du maître, sinon de faire exister chacun de ceux qui le servent comme ils sont, dans leur perspective, dans leur réalité propre, spécifique. Vous posez là, dit Josie Heisenberg, le problème de l'écologie. Bien entendu, ce problème n'est pas explicitement posé dans la Bible. Le mot écologie ne s'y trouve pas. Il vient d'ailleurs d'être tout récemment créé en hébreu moderne. Mais si l'on y regarde de plus près, on constate que la Bible a été très attentive au problème des rapports de l'homme avec la nature. C'est ainsi que la Bible a mis solennellement le peuple d'Israël en garde contre une exploitation abusive des ressources naturelles. Il existe dans la Torah une loi très importante, c'est la loi de la Shemitah, la loi de l'année sabbatique. La terre fera Shabbat pour Dieu, pas seulement l'homme, pas seulement les animaux, mais la terre elle-même. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que la terre a sa spécificité propre et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi de ce qui nous est donné. Ce qui nous est donné pour être donné. Et donc la terre n'est pas notre possession, nous sommes des gérants. Et c'est le principe qui est mis en évidence ici. La terre fera Shabbat pour Dieu. 6 années tu sèmeras ton champ, et 6 années tu tailleras ta vigne et récolteras leurs fruits, mais la 7e année sera Shabbat des Shabbats pour Dieu. Tu la laisses en jachère. Et nous allons voir que ce principe est extrêmement important, le principe du Shabbat. Il y a bien entendu un parallélisme remarquable entre le Shabbat et l'année sabbatique. Mais on va y venir tout de suite. Donc ici, il donne le principe qu'il maîtrise le poisson de la mer et le volatile des cieux. Et donc on va pouvoir les utiliser, les animaux, pour soi. Eh bien, c'est le contraire qui va être dit dans ce premier texte. L'homme est végétarien au départ, et il ne deviendra carnivore qu'à l'époque de Noé. Et nous verrons pourquoi. Ce n'est pas du tout un hasard. Mais de nouveau, qu'est-ce qui est dit là-dedans? Est-ce qu'on veut dire qu'il faut être végétarien? Ce n'est pas nécessairement ça qui est dit. Et ça veut dire qu'être végétarien symbolise une réalité, un mode d'être qu'il va falloir décrypter. Et il créa Dieu, hein, vous voyez qu'il y a toujours la parole de Dieu, et puis cette parole s'applique et la réalité se fait, advient. Il créa Dieu l'humain. Donc ce terme humain qui renvoie à humus, la terre, le terrestre, à son image. À l'image de Dieu. Il le créa. On dirait qu'il créa l'humain à son image, c'est encore son affaire, et puis à l'image de Dieu, et réutiliser le terme de Dieu ici, mais aussi une séparation. À l'image de Dieu, il le créa. Donc l'humain est d'abord considéré comme collectif. Et puis, mâle et femelle, il les créa. On voit bien que c'est un collectif dans lequel il y a la réalité sexuée. Et donc, l'homme est donné comme image dans sa réalité sexuée. C'est ça qui est important à voir dans ce verset. Donc, c'est en mâle et femelle, réalité sexuelle, qui n'était pas utilisée, alors qu'elle existe aussi, et elle sera utilisée dans le texte sur Noé, elle n'est pas utilisée pour les animaux, mais elle est utilisée ici, le masculin et le féminin. Et il ne faut pas traduire homme et femme, parce que le texte ne traduit pas homme et femme. Le texte dit « Zachar un keva ». Et dans Zachar, il y a la racine de la souvenance, de la mémoire. L'homme est en quelque sorte, le mâle est en quelque sorte la mémoire de tous ceux qui l'ont précédé. Il porte en lui-même une vie qui est mémoire. Mémoire aussi de Dieu, comme disent les commentateurs juifs. Dieu est mémoire dans l'homme. La vie est présente dans l'homme non pas comme une réalité qu'il crée, mais comme une réalité qu'il reçoit. Je fais mémoire. Faire mémoire exprime toujours une altérité. Je ne fais pas seulement mémoire de moi, je fais mémoire de ce que j'ai vécu, bien sûr, mais qui me précède. Je fais mémoire d'un passé. Mekeva, pour dire la femelle, c'est le réceptacle, le creux, ce qui reçoit, la coupe. Donc il y a à la fois une mémoire et une coupe. Mâle et femelle. Donc il y a déjà dans cette image de mâle et femelle une communication. Ce n'est pas encore dit tel quel. C'est simplement une première appréhension des choses. Bon, c'est une réalité concrète, mais en même temps, c'est cette réalité concrète qui est image de Dieu. Mais il n'y a que l'homme qui est véritablement image de Dieu. Il est image de Dieu par sa maîtrise, et il est image de Dieu par cette réalité mâle et femelle. Nous reviendrons là-dessus d'ailleurs demain, quand nous verrons le second texte et nous ferons une comparaison. Et il l'est béni. Il ne reprend pas comme collectif ici, il l'est béni, chacun ayant en quelque sorte sa bénédiction propre, c'est-à-dire sa manière de donner la vie. Bénédiction est toujours don de vie. Et il leur dit, ben il lui dit, voyez, sinon il parlerait à l'ensemble. Non, ce n'est pas un discours général, c'est un discours aussi particulier. Il leur dit Dieu, mais il ne leur dit rien d'autre que ce qu'il avait dit aux animaux. Fructifiez, multipliez, emplissez les eaux des mers. Et maintenant, fructifiez, multipliez, emplissez la terre. Et soumettez-la. Autre terme maintenant. Ce n'est pas seulement maîtriser le poisson de la mer et le volatile des cieux, mais c'est soumettez-la. Et dans ce soumettez-la, il faut voir, bien sûr, un travail d'ordonnance, de hiérarchisation, ordonnance, hiérarchisation des réalités, mise en ordre, collaboration à l'œuvre de Dieu, tout cela est présent dans ce soumettez-la, qui est encore un autre mot que maîtriser et un autre mot que gouverner. Mais il ne faut pas tout mêler non plus. Et maîtriser, voyez, les termes sont différents. Le poisson de la mer, le volatile des cieux, et tout vivant rampant sur la terre. Donc il y a un rôle de préséance qui est ici donné à l'homme, au milieu de la création, qui l'a précédé d'ailleurs, et dans laquelle il peut se retrouver. En tout cas, c'est le même jour que la création du monde animal. Et alors, c'est assorti. Certains disent d'un commandement. En effet, dans la tradition juive, fructifiez, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Et regardez comme la première des 613 prescriptions qui sont données à l'homme dans les cinq livres du Pentateuque. 613 prescriptions qui sont dénombrées. Et c'est la première. Et la première, donc, c'est de procréer. Et c'est la manière dont l'homme va être collaborateur à l'œuvre de Dieu, co-créateur avec Dieu du monde, co-créateur et ordonnateur du monde. Il n'y a faut pas de démiurge pour ça, il ne faut pas d'un Dieu subalterne, l'homme y suffit. C'est la tâche de l'homme. Et déjà intervient ici cette préséance qui va s'exprimer, vous allez voir, dans le deuxième récit, comme une sorte de royauté, mais pas encore ici. Et alors, après leur avoir donné la vie fructifiée et multipliée, il y a, est-ce un commandement ? C'est pas fructifier, multiplier, remplissez la terre, ce ne sont pas des impératifs. C'est une sorte de constatation. Voici, je vous donne. Je vous donne. Il y a un « je » divin qui intervient ici, Nous n'avons pas encore vu intervenir ce jeu. Et c'est extrêmement important de parler à la première personne du singulier. Je vous donne. Il y a un dialogue instauré. Je vous donne. Et donc c'est la parole qui fait le don. Je t'offre ceci, je te le donne. Sinon c'est une réalité anonyme, mais je te le donne, c'est une passation de pouvoir. C'est l'homme, ici d'abord Dieu, parce qu'il le fera à l'image de Dieu, c'est l'homme, ou ici Dieu, qui fait cadeau à l'homme. Qu'est-ce que c'est que faire cadeau? Qu'est-ce que c'est que donner? Je vous donne toute herbe semençant semence, qui est sur la face de toute la terre. Et tout arbre, mais c'est tout l'arbre, toute la réalité arbre, qui a en soi un fruit d'arbre, semençant semence. Pour vous, il sera à manger. Votre nourriture, c'est cela. Et pour tout vivant de la terre, et pour tout volatile des cieux et tout rampant sur la terre, qui a en soi être vivant, et qui a une sorte de connaturalité avec l'homme, qui est aussi être vivant, toute verdure d'herbe sera à manger. L'herbe, la verdure, le végétal, est don de Dieu pour l'homme. Il n'y a aucune violence dans prendre l'herbe, le végétal, le manger, l'ingérer. Il n'y a aucune violence qui est exprimée par là. On ne tue pas. Et les commentateurs juifs...